Bonjour à tous. On va pouvoir commencer cette rencontre avec Dominique Sylvain. Donc on va passer un petit moment ensemble pour continuer de questionner le rapport entre la littérature et le réel. Et là, nous allons un petit peu plus particulièrement creuser donc ce chantier de fouilles dans l'œuvre de Dominique, et notamment autour de son dernier roman qui s'appelle Une femme de rêve, que vous pouvez trouver, je crois, à l'entrée, et que j'ai ici avec moi, que je peux vous montrer, qui est donc le tout dernier roman de Dominique. Juste pour vous resituer un petit peu qui est Dominique Sylvain, et puis après c'est elle que je laisserai parler, puisque c'est un peu ça l'intérêt. Dominique représente beaucoup de choses dans l'univers du roman policier, puisque là on va parler spécifiquement d'un genre qu'il était très intéressant de pouvoir avoir ici dans cette programmation, parce que à mon sens, peut-être que tu nous éclaireras là-dessus aussi, il y a vraiment un genre littéraire aussi qu'il ne faut pas oublier dans le rapport entre le réel et la littérature, c'est le polar, avec tout ce qu'il recouvre comme univers, on va dire, puisque ça peut aller du thriller au roman à suspense, au roman noir. Voilà, c'est une large gamme qui ne comporte pas que le roman policier ou pas que le personnage de policier, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et Dominique Sylvain est vraiment un des noms dans le polar français qui est important. Il y a, je ne sais plus exactement, tu n'es pas loin de la vingtaine de romans, je crois.
Ah, je crois que j'en ai écrit 18, il me semble.
Voilà, donc plus que deux, oui. Et on sera à la vingtaine. et donc, voilà, moi je voulais commencer cette rencontre dans ton univers en te demandant dans quel état tu es d'attention au monde quand tu n'es pas en train d'écrire, justement, comment est-ce que déjà il se passe quelque chose qui vient nourrir un petit peu tout ton univers et ton travail quand tu n'écris pas, et par quel canal ça pourrait passer?
Je crois que je me fais un petit peu l'effet d'être une sorte d'éponge, en fait, c'est-à-dire que je suis en permanence à l'écoute d'une possibilité. Tout à l'heure, nous étions en train de parler et tu m'as évoqué quelques sujets, et immédiatement, je me suis dit « Ah, ça pourrait peut-être faire un bon roman, ou ça pourrait faire un début de nouvelle, ou ça pourrait. » Il y a toujours une possibilité qui se cache quelque part, et je crois, oui, c'est ça, j'ai toujours mes petites antennes qui sont sorties. Ça passe fréquemment par les discussions, par les échanges que j'ai avec des amis, avec de parfaits inconnus, avec des collègues. Alors après, il y a la presse, hein, évidemment, il y a les choses qui sont plus structurées, plus argumentées, plus développées, mais ne serait-ce que la vie, je pense en permanence à l'écoute, je vois les choses je vois l'existence comme un matériau, en fait. Et donc j'ai l'impression à la fois de la vivre et à la fois de la regarder légèrement à distance, en me disant que je pourrais récupérer certains éléments et les modeler pour en faire une histoire.
Ce roman, donc, on va pouvoir commencer à rentrer dans donc, Une femme de rêve, hein, je vous rappelle le titre. C'est un roman dans lequel on rentre par la case prison, alors, qui est pour le coup bien un univers du polar, puisqu'on va suivre une femme qui rentre en prison et qui va nous faire découvrir un autre personnage essentiel de l'histoire qui s'appelle Carmia, qui est un truand. Et en rentrant justement dans le roman, je me suis demandé, en pensant justement à notre rencontre et à la discussion, finalement, est-ce que la prison, on est nourri d'un tel imaginaire, parce qu'on va tous au cinéma, on voit les films, ça aussi, ça construit tout ce qui se passe, toutes les représentations,
oui,
qu'on a. Est-ce que finalement, on n'a plus besoin pour certaines choses d'aller chercher, creuser, se documenter pour savoir comment l'écrire? Ou est-ce qu'au contraire, toi, tu t'es posé, notamment sur ce genre de scène, déjà beaucoup de questions pour savoir comment le faire de la façon la plus juste?
Ah oui, énormément. Mais déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis d'emblée partie du réel pour cette histoire. Il y a eu notamment le fait que mon éditrice et moi-même, nous avions été invités à un festival à Arcachon. Et je me suis retrouvée logée dans une maison d'hôte avec tous les autres auteurs. Ça tournait autour de la traduction, donc il y avait aussi des traducteurs. Et notamment, il y avait des universitaires. Et comme je suis une lefto, le hasard a fait que je croise une autre lefto au petit déjeuner, et c'était une dame qui m'a donc appris qu'elle était universitaire et qu'elle donnait des cours à ceux qu'elle appelait les étudiants empêchés. C'est le terme officiel, en fait, pour désigner les prisonniers à qui on permet de passer, ben là en l'occurrence, une licence d'analyse filmique. Donc cette dame était professeure à l'université et en même temps donnait une partie de son temps pour permettre à ces détenus de passer en prison une licence. Alors j'ai trouvé ça immédiatement passionnant, mais je n'en ai rien montré. Je suis restée sur le mode de la conversation normale. Mais je pense qu'elle était quand même assez fine gueule. Elle a dû voir que ça m'intéressait énormément. Et donc, de fil en aiguille, j'ai appris qu'elle était la professeure de Carlos, le terroriste. Alors, quand vous avez un sujet comme ça, quand le réel s'offre à vous de manière, je dirais, si éclatante, c'est à la fois un avantage parce que vous vous dites je tiens un sujet vraiment passionnant. Mais ça peut être aussi un inconvénient parce que d'une certaine manière, le réel est prêt à vous écraser. C'est-à-dire qu'il est plus fort que vous, il a plus d'imagination que vous. Et là, quand même, la figure de Carlos s'imposait. Et donc, immédiatement, j'ai pensé à l'histoire d'une universitaire et d'un politique. Et alors, j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis sentie rapidement écrasée par cette possibilité. Je voyais pas très bien comment j'allais... Enfin, je me voyais très bien m'embourber, mais je me voyais pas décoller à partir de là. Donc, il a fallu que je fasse là une adaptation par rapport au réel. J'ai donc décidé de faire de ce personnage un braqueur, mais quand même un braqueur solide, un braqueur dans le sens... Enfin, solide sur le plan narratif, c'est-à-dire un braqueur multirécidiviste, et même quelqu'un qui avait du sang sur les mains et qui était condamné à une peine très très importante. En gros, il savait, vu l'âge qu'il avait, qu'il allait finir son temps en prison. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a d'autre choix, finalement, il n'a plus rien à perdre, il n'a pas d'autre choix que de s'évader. Et il va donc se servir de cette femme, qu'il voit comme une faille, pour pouvoir s'évader. Mais là, le réel reprend ses droits, parce que, bon, tu le disais tout à l'heure, on est tous nourris d'évasion, de films de braquage en tout genre, voilà, on a cette nourriture fictionnelle là en nous depuis très longtemps, mais pour autant, je pense pas qu'on puisse inventer, enfin si, peut-être certains pourraient, mais moi je me voyais mal inventer l'évasion d'un braqueur d'un quartier de haute sécurité, à moins de faire une guignolade qui n'aura aucun intérêt. Donc j'étais très embêtée, j'avais déjà rédigé une bonne partie du texte, mais j'avais laissé en suspens cet aspect de l'évasion en me disant « bon sang, il faut que je trouve un truc ». Et il s'est avéré que là, le réel est arrivé encore. C'était au mois de juillet, je ne sais plus quand. Et Redouane Faïd s'est évadé de prison. Donc, je vous l'avoue, j'ai vu ça comme une aubaine. Et je me suis renseignée, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire sur la question, sur la manière dont on pouvait s'échapper d'un quartier de haute sécurité. Donc en fait, tout ça pour dire que je jongle entre le réel et l'adaptation du réel pour les besoins de mon histoire. Il y a des ajustements comme ça qui se font en permanence.
Et avec un souci du détail. Et de la justesse peut-être aussi, notamment quant aux procédures. Je ne sais pas si le genre le veut plus qu'un autre. Mais bon, on a par exemple le prologue, les deux. Enfin, je vous dis la première phrase, en fait. Le tireur vise sa cible avec son pistolet semi-automatique Mac, modèle 1950.
Oui, alors ça, c'est un passage que j'ai mis après avoir terminé le livre. Parce qu'en fait, si j'avais commencé par le chapitre où l'universitaire se rend en prison... C'était trop joli. Il y avait ce moment de paix avant que les ennuis ne lui tombent dessus. Ça démarrait mal. J'aime pas commencer de manière jolie. Enfin, pas pour celui-là. Et donc, tout d'un coup, j'ai eu la révélation qu'en fait, ça serait intéressant d'avoir une évocation extrêmement technique d'un tir, qui d'ailleurs est un... On peut pas révéler vraiment l'histoire, mais c'est un tireur qui va tirer sur quelqu'un, qui va blesser quelqu'un, et ça va être le début... Bon, c'est fatal à plusieurs titres, notamment parce que ça va déclencher une volonté de vengeance chez quelqu'un. Donc, je l'ai dépeint de manière extrêmement technique, exactement ce qui se passe quand on tire, et j'ai envisagé que le temps ralentissait. Donc, on a un prologue très court avec quelqu'un qui tire sur quelqu'un, le temps ralentit, et après, on passe au chapitre 1, où là, on revient dans un temps normal, et il y a un changement de rythme qui est, à mon avis, intéressant. C'était plus intéressant que de commencer par... une scène classique d'une femme se rendant dans, dans une prison où il va se passer quelque chose.
Mais là, par exemple, tu nous parles de construction, de comment tu as pensé tes scènes, les agencements, alors qu'on a parlé aussi de sujets concrets qui sont, par exemple, les armes et la prison. Et alors, comment est-ce que tu abordes ces sujets-là? Est-ce que tu vas chercher à t'informer par le biais de personnes qui vont être des professionnels de ces domaines-là, ou est-ce que tu vas chercher une documentation? À quelle source, en fait, tu vas puiser pour confirmer des informations, pour être sûr de ne pas faire d'impair au regard de quelqu'un qui serait peut-être un spécialiste et qui dit « ça, c'est absolument pas possible ».
Exact. Enfin, ça, je l'ai piqué dans un livret militaire, donc j'avais...
Sauf si ça nuit à livrer de fausses informations.
J'avais quand même un peu vérifié 2-3 bricoles, j'avais un peu arrangé le style, parce que les livrets militaires ne sont pas particulièrement réputés pour la fluidité de leur style, bien évidemment. Donc voilà, là j'étais partie vraiment d'une info technique directe. Sinon, je me souviens, en fait, il m'est arrivé déjà, par le passé, d'aller interviewer des professionnels. Notamment, je me souviens que j'avais une scène, le début d'un roman qui commençait par la brigade fluviale de Paris qui récupérait un corps dans la Seine. Et là, c'est pareil, bon, j'avais commencé à le rédiger parce qu'il faut bien commencer, mais je me disais, ça n'a ni queue ni tête, je n'y arrive pas, c'est pas possible. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe concrètement, quelle est la technique pour aller chercher un corps, et puis qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on voit pas. Et donc j'ai eu un mal fou à réussir à repêcher, c'est le cas de le dire, un plongeur de la brigade fluviale, parce que déjà à l'époque on était en vigipirate, ou du moins c'était la bonne excuse qu'ils avaient trouvée pour essayer de se débarrasser de moi. Enfin, ils voulaient pas me répondre, en fait, ils avaient autre chose à faire. Et j'ai vraiment cherché pendant longtemps et j'ai réussi, j'ai eu une chance folle parce que j'ai réussi à trouver un plongeur de la brigade fluviale qui était en année sabbatique. Il avait décidé de créer son petit journal de plongée, notamment de la plongée récréative, et il avait donc du temps devant lui. Et puis j'avais déjà ma scène écrite, donc je voyais ce que je voulais savoir. Et donc je l'ai interviewé de manière extrêmement précise. Je lui ai demandé à quoi ressemblait un cadavre qu'on sortait de l'eau, comment on s'y prenait. Et là, il m'a appris qu'en fait, on n'y voyait strictement rien quand on fouillait dans la Seine, parce que la Seine est limoneuse. Et donc, même si elle est canalisée, elle est quand même pleine de limon, et en plus, c'est brassé par un courant quand même assez puissant. Donc, il s'agit d'y aller avec les doigts. Et ils m'ont expliqué comment ils cernaient le périmètre, comment ils avançaient, etc. Comment ils n'utilisaient pas forcément un matériel complètement adéquat de plongée, parce qu'il y avait une histoire de je ne sais plus quoi, de buoyancy, enfin bon, je ne me souviens plus parce que c'était il y a longtemps. Mais disons, forte de tous ces détails, tout d'un coup, la scène, je l'ai vue vraiment. Et c'est ça qui est génial, c'est le moment où en fait l'intuition qu'on a et le réel, la réalité, se combinent et donnent une puissance, à mon avis, au récit qui n'aurait pas été possible si on n'avait pas été, si on s'était pas à la fois mis le cerveau en mayonnaise pour aller chercher des choses et si on n'était pas allé voir le concret pour alimenter cette mayonnaise.
Oui, il y a l'obligation technique et précise et puis oui. Qui peut susciter générer oui. des surprises.
Voilà, voilà, c'est ça. Et sinon, j'avoue qu'en fait, ça fait à peu près... Mon premier roman est sorti en 95, et à cette époque-là, on ne bénéficiait pas d'un Internet. C'était pas... Voilà. Et maintenant, je l'utilise vraiment très facilement comme un outil évident. Et notamment, là, je suis en train de réfléchir à un nouveau roman, et j'ai imaginé un taulard. Peut-être c'est encore une histoire de prison, mais c'est un peu différent. Il sort de prison après 20 ans et il redécouvre Séoul. Ça démarre en Corée. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de Google Maps pour trouver une prison, à savoir exactement à combien de kilomètres elle se trouvait de Séoul, voir où se trouvait l'arrêt de bus, quels étaient les horaires de bus, quels étaient les noms des stations. Et je me suis mis dans la peau du gars qui sortait. J'ai imaginé la température qu'il faisait, comment il était vêtu. Quelqu'un qui doit venir le chercher ne vient pas, donc il se trouve à marcher dans le froid, il est obligé de prendre l'autobus, et je le vois s'asseoir dans le bus, je vois les gens qui montent, et donc je me suis mise dans la peau du gars. Et après, avec Google Maps, j'ai suivi le chemin du bus, j'ai pas tout fait, parce qu'il y avait quoi, 50 km, je sais pas quand même. Mais bon, on peut voir se défiler le chemin, voir que tout d'un coup, il y a plein de constructions, comment sont-elles ces constructions, et puis voir que tout d'un coup on arrive un peu dans la nature, qu'il y a des neiges qui chatouillent les collines, et donc du coup, pour lui, ça peut être une réflexion. Non pas que ce soit un poète, pas du tout, mais il va y avoir une réflexion par rapport à ça. Et donc là, pour le coup, je me glisse dans sa peau, grâce au réel, et je me glisse dans la peau d'un être fictif, grâce au réel. Et c'est comme ça que j'arrive à réfléchir en me disant, je me glisse dans la peau d'un être humain, donc qui est sur cette terre, sur cette planète. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà.
C'est un confort, le changement, l'apport de la technologie et d'une des technologies numériques, et notamment donc d'Internet que tu mentionnes.
Je trouve, oui.
Tu l'as vu depuis le commencement de ton écriture, justement,
oui.
Une facilité pour aller chercher ces
informations. Ça a facilité, c'est-à-dire qu'on a moins besoin d'aller enquiquiner des personnes qui n'ont pas envie d'être enquiquinées. Bon, quelquefois, le témoignage humain est quand même très important parce que je me souviens, il y avait une période où j'avais une histoire à écrire qui avait lien avec le trafic des biens culturels. Et donc, je m'étais retrouvée à aller voir des spécialistes, une brigade spécialisée à Paris. Alors, eux avaient accepté de me recevoir, mais en fait, ils ne m'avaient rien dit. Ils ne voulaient pas répondre à mes questions, ils tournaient autour du pot. En revanche, ils m'avaient raconté qu'ils étaient. Il y en a un qui aimait faire de la guitare, un autre qui faisait ceci ou cela. Donc j'avais vu des choses apparaître que je n'aurais pas découvertes si je n'étais pas allée à la rencontre de ces personnes. Mais pour ce qui concernait la réalité de leur métier, c'était quand même un peu juste. Mais j'avais récupéré autre chose. Donc il y a la nécessité de la documentation qu'on peut récupérer par le livre, par la presse, parce que ça, j'ai lu aussi beaucoup la presse, par l'Internet tous azimuts, et aussi par le témoignage vrai, et puis le fait aussi que, là, je parle énormément, mais je sais aussi me taire pendant longtemps, et donc, en fait, j'écoute beaucoup les gens dans n'importe quelle situation, et je leur pose des questions, comme ça, juste pour relancer, et puis j'attends de voir ce qu'ils vont me dire, et c'est merveilleux quand la surprise est là, ou quelquefois vous récupérez quelque chose et vous ne vous rendez pas compte que ça va devenir intéressant plus tard. Il y a une petite banque de données, là, des couches de sédimentation, et à un moment donné, on peut aller récupérer des informations dont on n'avait pas perçu la richesse au moment X.
Et est-ce qu'il y a une vigilance justement aussi sur la possibilité, on parle beaucoup des fausses informations, à disposition une grande quantité de ressources, et justement à vérifier et à être attentif à pas non plus se laisser avoir.
En fait, ce qui se passe, je pense, et ça joue, c'est que j'ai été journaliste dans le temps, et donc on nous apprenait bien évidemment à vérifier nos informations en croisant les sources. Et donc, et à essayer aussi, en donnant une information, de se mettre à la place du public qui va l'apercevoir. C'est-à-dire, est-ce qu'il comprend ? Est-ce qu'on est clair ? Est-ce qu'on est vaseux ? Est-ce qu'il manque un élément ? Ou au contraire, est-ce qu'on en dit trop ? Mais là, en l'occurrence, quand il s'agit de faits précis, il s'agit d'être précis, justement, dans leur rendu. Et je pense que oui, cette formation de journaliste m'a aidée parce que je pense que quand je suis face à un amas de documentation, ben j'ai cette tendance à me lancer dedans, à aller farfouiller dans cette masse de manière un peu efficace, enfin, la plus efficace possible. Et puis cette tendance à croiser pour éviter effectivement de bifurquer vers des choses fausses.
Et est-ce que tu pourrais avoir le profil aussi des personnes qui vont dans des bibliothèques, par exemple, explorer les microfilms, chercher dans des archives qui peuvent être aussi des ressources. Alors, il faut savoir chercher là aussi et en avoir peut-être besoin. Mais est-ce que c'est un lieu que tu utilises ou pas du tout ?
Non. Là, j'avoue que non. Les microfilms, les anciens journaux qui sont sur microfilm, non, ça, je n'ai pas fait. C'est vrai que ma grosse ressource, c'est l'Internet. Mais c'est aussi... Je suis en fait, très bien que n'ayant aucune formation dans ce domaine, je suis très passionnée par la science, en fait. Et je suis abonnée à un magazine de vulgarisation qui s'appelle New Scientist, et qui, en fait, fait le point, c'est un hebdomadaire, et ça fait le point toutes les semaines sur les dernières découvertes scientifiques ou les dernières évolutions technologiques. Et ça, j'avoue que c'est une nourriture pour l'esprit aussi. Bon, il y a des passages en physique quantique, bon, j'y comprends strictement rien, mais il y a quand même tout un tas d'éléments que je peux quand même appréhender, et là, il peut y avoir des sources d'inspiration. Qu'est-ce que j'ai vu tout récemment? Bon, enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont tout à fait passionnantes. Mais par exemple, on peut avoir des informations sur la vraie vie des arbres. Et dans ce cas-là, on apprend que les arbres sont des créatures bien plus complexes et bien plus communicatives que ce qu'on peut envisager, bien plus solidaires aussi. Et du coup, je trouve ça à la fois... Bon, c'est très scientifique, mais c'est à la fois très poétique. Et du coup, ça peut nourrir un personnage, ça peut alimenter une situation. Alors que là, dans le domaine scientifique, on est dans l'hyper, enfin pas l'hyper réel, mais on est dans la c'est le questionnement permanent sur qu'est-ce que la réalité, la science. Donc du coup, ça me passionne et ça m'éveille, ça me donne des idées.
Tu parlais justement des personnages. Une femme de rêve est construite avec un certain nombre de personnages principaux et secondaires, mais qui sont tous très 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 précis. En tout cas, quand on lit tes romans et notamment celui-ci, on a assez vite une image photographique et un portrait qui se dessine
de
assez
la personne.
Rapidement de, oui. des personnes, je trouve. Moi, je l'ai ressenti comme ça. On a commencé un peu à parler de Carmia. Je pense à Laurence, qui est donc cette... quel serait son preneuse de son. Je crois qu'elle a un titre assez précis.
C'est un terme que... C'est un métier dont j'ignorais l'existence. En fait, elle est audio-naturaliste. Et alors là, bon, c'est tout bête, c'est que... J'ai découvert cette information dans Télérama. Pour tout vous dire, en fait, ma belle-mère est abonnée à Télérama. Donc, elle se garde les pages qui l'intéressent et elle m'envoie les pages avec des descriptions sur, des chroniques de films, des chroniques de documentaires, etc. Et là, en l'occurrence, je suis tombée sur une chronique tout à fait passionnante d'un documentaire sur un audio-naturaliste, donc un homme... qui exerçait dans ma région de naissance, la Lorraine. Et donc, c'était un texte relativement court, mais je me suis dit, ah bon, audio-naturaliste, la manière dont les choses étaient dépeintes était assez, assez intrigante. Et donc, en partant de là, j'ai utilisé l'Internet pour aller plus loin, pour voir une partie du documentaire, pour aller sur des sites d'autres audio-naturalistes qui racontaient leur métier. Et après, j'ai envisagé un personnage d'audio-naturaliste, c'est devenu une femme, qui a une part très importante dans l'histoire. Mais là aussi, je me suis glissée dans sa peau, c'est-à-dire je l'ai imaginée seule, marchant dans la forêt, avec son matériel, les sons, la température, la sensation, les craintes, l'expérience.
La recherche du silence aussi.
Et la recherche du silence. Et ça, la recherche du silence, je l'ai trouvé dans un témoignage d'un des audio-naturalistes qui disait que quand on enregistre les bruits de la nature, on est assez souvent perturbé par les bruits de la non-nature, c'est-à-dire par les bruits des motos, le trafic en tout genre, les avions. La machinerie agricole et ça gâche un peu l'enregistrement des bruits de la nature, aussi bien de l'effet du vent sur les clôtures que de le bruit le chant des oiseaux et les plaintes des animaux en tout genre. Et donc du coup, un des audio-naturalistes disait que paradoxalement, il rêvait de trouver ce moment de silence absolu, et c'est impossible. Le silence n'existe pas, mais on peut se le fixer comme un rêve. Et je trouvais que c'était un joli paradoxe. Et là, encore une fois, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu inventer.
Dans le roman, il y a de nombreux passages qu'on a commencé à évoquer qui renvoient à la documentation au sujet et au réel. Et je ne sais pas, tu nous disais que tu étais journaliste, je ne sais pas quel genre de journaliste, puisqu'il y a plusieurs types de journalisme, mais il y a notamment un passage où Barbara donc, lit un article en ligne sur Carmia, donc ce personnage qui sort de prison et qu'on va découvrir à travers l'article de presse, dont tu as réécrit un article de presse qui est assez conséquent. Hein. Ce n'est pas une petite brève qui refait la bio du gangster. C'est un passage qui te ramène à ton métier, qui est utile en termes d'écriture. Comment ça arrive là-dedans ?
Il y a effectivement une écriture journalistique qui n'a rien à voir avec l'écriture romanesque. C'est une écriture factuelle, une écriture de la précision. où on répond aux questions qui, comment, où, pourquoi. Il y en a encore une, mais je l'oublie. J'utilise cette méthode que j'avais apprise, en fait. Et c'est plaisant, parce qu'en fait, dans un texte, c'est intéressant de varier les styles, d'introduire du rythme, de varier les ambiances, et que ça se construise un peu comme un morceau musical, en fait, avec des moments plus plats qui en préparent d'autres, des moments d'accélération, de nouveau des ralentissements. Enfin bon, et cette modulation sur l'écriture, ça peut être un outil pour... Bon, déjà, c'est un outil narratif, hein, parce que ça peut permettre de compacter, de rendre l'intrigue plus efficace, d'avancer peut-être un peu plus vite, de donner des informations au lecteur de manière naturelle. Mais en même temps, c'est un travail, oui, sur le rythme que j'aime bien. Voilà.
C'est un rythme plus... Comment tu le définirais ? Parce que ça n'a pas non plus une rupture par rapport à ton écriture. Comment justement tu qualifierais ton écriture par rapport à ce passage journalistique ? On a l'impression quand même que tu tends aussi à cette forme de sobriété,
oui.
De choses très tenues.
Oui, je pense que... Et puis, il faut dire aussi une chose, je suis abonnée à un autre magazine... Enfin, j'en ai deux, hein, mes deux favoris. Il y a un autre magazine qui s'appelle The Economist, et qui est un magazine que j'apprécie parce que c'est un magazine où il n'y a pas de signature. C'est-à-dire que le journaliste n'est jamais là en tant qu'individu. Il est là en tant que journaliste, mais il n'est pas nommé. Personne ne signe les papiers dans The Economist. Et donc, en fait, ce qui compte, c'est d'être bon, quoi, en fait, d'être efficace et d'apporter des faits. Alors, je trouve que c'est en général très bien écrit. Il y a des formules qui sont... Il y a un certain humour, je dois dire. Ça dépend des sujets, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté très factuel. C'est-à-dire on part pas dans des opinions, ou pas trop. Ou alors, du moins, si on donne des opinions, il faut qu'elles soient alimentées par des faits, par des chiffres bien, bien précis. Et j'avoue que c'est un type d'écriture que j'apprécie. Il y a plein d'écritures journalistiques qui sont passionnantes. Hein. Par exemple, dans le New Yorker, on a aussi une belle écriture journalistique, et celle du journaliste qui va suivre une personne pendant 10 jours, 15 jours, un mois, et qui va faire un papier de fond qui va être là, du coup, proche de l'écriture romanesque, hein, puisqu'on rentre dans l'univers de la personne, on établit une sorte de connivence avec elle. On n'est plus seulement dans les faits, on est dans la perception, on est dans la sensibilité, on est dans le subjectif, en fait. Et ça, c'est très intéressant aussi, et je pense que c'est très américain. Donc j'avoue que j'ai toujours eu un intérêt pour la conception journalistique des anglo-saxons. Je trouve qu'ils ont une rigueur et en même temps une force de travail. Et ils ont ces différents types d'écriture qui sont tout à fait passionnants à regarder quand on est romancier aussi. Alors de temps en temps, ça me revient. Je repense aux journalistes et je me dis... Mais là, il faut quand même préciser que dans ce roman, ce passage journalistique, c'est vraiment parce que ça me semblait nécessaire pour l'intrigue, en fait.
Pratique aussi.
Et puis, c'était pratique. Ça donnait beaucoup de choses. On ne pouvait pas diluer, quoi. Voilà.
Tu parlais de certains points de départ de ce livre, de quoi il a été nourri, du fait de rencontrer des gens, que ça fait un déclic. Je voudrais faire un parallèle, enfin pas un parallèle, mais en revenant au moment où tu démarres en 95 avec Baka, qui lui, si j'ai bien compris, tu me détromperas peut-être, est totalement nourri d'une expérience plutôt personnelle à ce moment-là.
Oui.
Est-ce que quand on démarre, on a plutôt tendance à puiser dans ce qui est soi, ce qui est proche, et est-ce que tu aurais l'impression que maintenant... tu t'es éloigné et détaché de tout ça et tu vas chercher de manière très très large autour de toi. Est-ce qu'il y a une progression, enfin pas dans le sens progression, mais une évolution et une façon différente de nourrir ces histoires ?
Alors ça, je ne sais pas s'il y a une évolution dans mon écriture, parce que j'ai tendance à pas regarder en arrière, en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le travail que je fais, c'est un process. C'est-à-dire, il n'y a pas un livre, puis un arrêt, puis un livre. C'est une sorte de continuation, mais qui, je n'éprouve pas pour autant le besoin de regarder en arrière, ou de temps en temps, mais très peu. J'ai l'impression que je progresse, j'avance sur un terrain. Ceci étant dit, il m'arrive quelquefois de faire un retour en arrière. Et typiquement, c'était il y a 2 jours, je devais répondre au téléphone à un journaliste qui préparait un article sur la perception qu'avaient les romancières, mais aussi les romanciers, du phénomène MeToo. Et est-ce que ce phénomène avait un impact sur leur travail ? Alors, il a fallu vraiment que je réfléchisse à tout ça. Et tout d'un coup, parce qu'il m'a dit, en fait, écoute, je te contacte parce que j'ai constaté que dans tes romans, tes héroïnes, enfin déjà, il y avait pas mal d'héroïnes, et en général, c'était des héroïnes à fort tempérament, qui étaient assez déterminées, qui savaient ce qu'elles voulaient. Bon, il y a toujours des victimes, bien évidemment, mais il se trouve que souvent les héroïnes mènent la danse. Et donc, j'ai réfléchi à tout ça, et tout d'un coup, j'ai eu une sorte de... Je ne sais pas, est-ce qu'on peut appeler ça une sorte de révélation, mais je me suis dit, mais c'est curieux, oui, c'est vrai, d'emblée, dès Baka, dès le premier, c'était une héroïne de détective privé, il y avait une femme forte qui n'était pas sans faille, hein, qui n'était pas sans faiblesse et qui allait commettre beaucoup d'erreurs dans cette première histoire, mais elle en voulait. Elle voulait prendre tout ce qu'il y avait à prendre, elle en voulait vraiment. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas lié à mon histoire personnelle ? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été élevée dans une sorte de matriarcat. J'ai connu en même temps mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère. Alors évidemment, dans notre famille, il y avait des hommes, mais il se trouve que mon père, lui, avait un caractère assez rêveur, donc en fait, il n'était pas vraiment là. C'était plutôt ma mère qui prenait les décisions. Ma grand-mère, elle, son mari avait une attaque, donc mon grand-père, et il était diminué. Enfin, il était quand même là, mais il était diminué. Il n'était pas autant là qu'il aurait pu l'être. Et quant à mon oncle, il revenait de la guerre d'Algérie et il s'en était pris plein la figure. Et il était quasi silencieux, quasi mutique. Donc j'ai grandi dans cette configuration bien particulière. Et je me suis rendu compte, et il m'a fallu 25 ans pour m'en rendre compte, visiblement, que mes femmes, mes héroïnes, étaient peut-être ce qu'elles étaient parce que ça venait du réel, du socle familial. En rajoutant aussi le détail qu'il y avait une anecdote dans la famille que ma mère m'a répétée plusieurs fois. Elle m'a raconté qu'en fait, elle avait passé le concours de greffier, donc ça devait être dans les années 50. Et elle n'avait pas eu le poste alors qu'elle avait eu les meilleures notes, d'après ce que j'avais compris. C'était un jeune homme qui avait eu le poste à sa place. Et ma mère, ça lui était resté en travers de la gorge, donc elle nous le racontait souvent. Et elle me disait, Dominique, toi, tu deviendras indépendante, et blablabla. Et je pense qu'en fait, quand j'ai créé mes héroïnes, le discours de ma mère était là, quoi.
C'est-à-dire que dans la construction d'un personnage, tu ne te dis pas ça va être une femme, ça va être une femme forte, indépendante. Les personnages ne sont pas construits à ce point-là.
Non, ils viennent de quelque part sans que je contrôle tout. Mais quelquefois, quand je me retourne sur le chemin, je me dis ça vient peut-être de là. Mais encore une fois, c'est une hypothèse. Hein, parce qu'après, il y a d'autres influences. Mais en général, je n'écris pas en me disant je vais faire cette démonstration-là. Je n'écris pas, par exemple, un polar, des polars politiques où je vais donner un point de vue bien précis en ayant envie de faire bouger les choses par la force de mes convictions. Je ne fais jamais ça. Je travaille à l'instinct, c'est-à-dire que je me laisse guider par les émotions que je ressens. L'audio-naturaliste, j'ai ressenti une émotion. Carmia, l'évadée, j'ai ressenti une émotion et j'avais 2 figures qui n'avaient rien à voir. Il fallait, pour créer un récit, qu'elles se rejoignent. Donc je pars de l'organique, je pars de quelque chose qui n'est pas rationnel, a priori, et je vais vers le rationnel. C'est comme si quelque part l'histoire existait, que quelques personnages, quelques éléments me donnent l'intuition de cette existence, et qu'en tant qu'auteur, je fasse une investigation, une enquête qui me mène à la révélation de l'histoire, qui sera là tout à la fin.
Alors Carmia, le personnage de gangster, lui est très conscient du réel et du monde qui l'entoure, et très conscient de l'image qu'il doit donner d'ailleurs pour le regard du public, hein, suite à son évasion. On va pas tout vous raconter, mais il embarque un certain nombre de personnages avec lui. Et il y a un passage notamment où il veut donner un certain type d'image et il a cette phrase que je te rappelais donc tout à l'heure où il dit puisqu'il veut qu'une journaliste soit embarquée avec lui pour contrôler un peu l'image du récit qu'il va produire. Et il dit « On n'écrit rien de bien si on ne voit pas la vie comme elle est. Adèle, je vais lui montrer comme ça plus tard, si elle parle à ses amis, les connards du cinéma, ça déteindra sur eux. Voilà, c'est tout. » On n'écrit rien de bien, donc, si on ne voit pas la vie comme elle est. Et c'était donc, c'est un peu aussi l'éternelle question de comment nourrir les textes et qu'on évoquait. Est-ce qu'il faut vraiment vivre des choses pour écrire, ou est-ce qu'on pourrait imaginer que tu passes ta vie dans ton fauteuil sans aller jamais, enfin sans expérimenter forcément quoi que ce soit, l'imagination pourrait faire le reste.
Il y a une période, j'enviais beaucoup Elmore Leonard, qui est un des auteurs que j'admire, un de mes professeurs, je dirais. Parce qu'en fait, il ne sortait pas de chez lui et il avait à son service une personne qui ne travaillait que pour lui, visiblement, et qui faisait des recherches pour lui. Par exemple, Elmore Leonard lui disait « Bon, je veux savoir à quoi ressemble le bureau d'un juge à la Nouvelle-Orléans ». Et donc, ce monsieur lui rapportait des photos, des informations, il lui donnait des notes, il lui donnait tous les éléments de façon à ce que Leonard puisse bâtir... Et donc, Léonard n'allait pas respirer les odeurs dans la cuisine de la Nouvelle-Orléans, ni discuter avec le juge, ni rien. Il travaillait à partir de ces données, volontairement. Visiblement, il a toujours fait ça. Alors, moi, je l'enviais beaucoup, mais au bout d'un moment, je me suis dit quand même, quelquefois, sortir de chez soi, c'est pas mal aussi, parce que justement, c'est là que les accidents arrivent, et les accidents, comme on le disait tout à l'heure, peuvent être intéressants. J'ai un peu perdu le fil.
C'était totalement ça. C'est fil. Le fil est là. C'est est-ce qu'on pourrait. Oui. Après, c'est probablement aussi propre à. Enfin, ce sont des choix. Oui. Mais il y a véritablement quelquefois des gens qui disent qu'il faut vivre les choses. Il faut avoir fait. On en voit souvent les biographies des auteurs. D'ailleurs, ils ont été maçons, fleuristes, bergers.
Oui, c'est le cas de Philippe Djian qui a vécu plein de vies. Et effectivement, ça se sent dans son œuvre. Dans l'œuvre de Philippe Djian, il y a souvent des gens qui construisent des maisons et qui savent comment faire. C'est beau aussi cette irruption du réel par l'expérience personnelle. Alors moi, ça m'arrive aussi de mettre des éléments, notamment là, je pense à une intrigue qui se déroulerait entre Séoul et Montréal, et il se trouve que Montréal, il y a un lien parce que j'ai mes deux fils qui vivent là-bas, donc j'y suis déjà allée, c'est une ville qui me plaît beaucoup, je ne savais pas trop quoi en faire, mais là, tout d'un coup, je me dis que c'est peut-être mûr pour une histoire qui se déroulerait là-bas. Et le fait d'y être déjà allée, évidemment, c'est quand même mieux pour évoquer une ville, même si après, il faut y retourner avec des instruments technologiques, mais au moins d'avoir la sensation de l'ambiance qui règne dans la ville, de la beauté des lieux, ou de ce qui est moche, ou de l'attitude des gens, enfin, c'est quand même... Non, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et notamment, c'est ce que j'adorais à Tokyo. Quand je racontais des histoires qui se déroulaient à Tokyo, c'est que j'y avais vécu. Et ça, c'était extrêmement plaisant de pouvoir là, même si quand j'écrivais une scène qui se déroulait à Tokyo, j'y étais plus ou j'y étais pas sur le moment. Comme j'y avais vécu, là, je me glissais vraiment facilement. Je revoyais tout. Je respirais les odeurs. Je revoyais les lieux. J'entendais les musiques du gars qui passait pour vendre sa patate douce là dans sa petite carriole. Enfin bon, il y avait comme ça des tas de sensations qui revenaient et des choses qu'on ne peut pas vraiment mettre en place si on les a pas vécues.
Ouais. Donc pas de la même manière ou pas de la même manière. Il y aurait une authenticité dans le fait d'avoir vécu. Certaines choses, ça garantirait.
Après, je suis pas persuadée qu'il y ait une règle. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Los Angeles et qui peuvent nous faire vivre des choses tout à fait palpitantes. Je dirais non, la puissance de l'imagination peut être formidable. Puis ça peut aussi permettre un décalage. Quelquefois, on n'a pas le nez dans le cambouis. On c'est une autre approche. Il y a certains textes qui sont un peu plus évanescents, qui sont très intéressants aussi. Non, je crois pas qu'il y ait qui est forcément de règles. Par exemple, quand Jean-Philippe Toussaint parle de Tokyo, évidemment, on n'est pas dans une description très réaliste, mais c'est très intéressant aussi. De la même façon, quand il parle de Berlin dans son livre La Télévision, là, que j'avais beaucoup aimé, j'ai quand même imaginé qu'il avait vécu à Berlin, parce qu'il y avait des détails qui étaient drôles, mais c'est pas parce qu'on... On peut très bien... c'est vrai que le polar est toujours dans le terreau du réalisme, mais on peut aussi raconter des histoires tout à fait passionnantes sans insister forcément sur le réel. Je crois que tout est possible.
Alors justement, en parlant du terreau du réalisme, il y a un certain nombre de chapitres de ce livre-là qui, alors pour le coup, cassent complètement avec le réel, puisqu'on a un récit qui est fantastique, onirique, tout ce qu'on veut, puisqu'on suit un personnage dont l'identité reste mystérieuse jusqu'au bout. Et qui est dans une espèce d'état, est-ce que c'est le purgatoire, est-ce que c'est déjà le paradis, est-ce que c'est l'enfer, on ne sait pas. Ouais. Et c'est un peu un autre monde. Ouais. Quelle était l'idée de l'insertion, justement, qui est totalement dans l'imagination de ces passages?
Alors, il y avait plusieurs éléments. Le premier, sans doute, c'est que j'avais eu une idée d'un concept, en fait. Je m'étais dit, tiens, pour une sorte de jeu. Plutôt que, comme dans bien des polars, plutôt que de chercher le coupable, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant, ou intéressant pour une fois, de chercher la victime? Voilà. Donc c'était ce concept de départ. Donc cette histoire de quête de la victime, je l'ai inscrite en partie dans une dimension qu'on pourrait considérer comme fantastique, comme onirique, on ne sait pas exactement. Mais il s'est avéré aussi qu'au bout du compte, c'était une sorte de tribut rendu à un auteur que j'aime vraiment beaucoup, du moins j'adorais ses œuvres de départ, et c'est Haruki Murakami. Et Haruki Murakami, je l'ai découvert avec Norwegian Wood, qui est un récit plutôt réaliste, mais le moment où j'ai vraiment apprécié, où là j'ai été complètement prise par son œuvre, c'était La fin des temps, qui raconte en fait une histoire comme ça double, où on a, d'ailleurs c'est amusant parce que c'est un enquêteur, on peut dire un cyberdétective, on lui a greffé un implant qui lui permet de se greffer directement à la matrice et d'aller enquêter à l'intérieur du net, quoi, en quelque sorte. Et donc il est engagé par un vieil homme pour aller auprès d'une fatigue physique intense, aller enquêter dans les réseaux d'une entreprise. Et donc, il fait son travail, qui est quand même relativement fastidieux, mais qui est quand même un travail d'enquêteur. Et en parallèle, il va y avoir une deuxième réalité, qui est une réalité onirique, où on a un personnage qui est très proche de celui-ci, mais qui vit dans un monde très étrange, qui est une sorte d'énorme bibliothèque. Un monde où en fait il y a aussi des licornes, enfin c'est un monde absolument fascinant, incroyable, totalement réaliste, assez mélancolique aussi, et ça se succède de manière assez rythmée, c'est-à-dire je ne sais pas si c'est un chapitre réaliste ou SF et un chapitre fantastique, mais du moins c'est extrêmement rythmé et on sait qu'on va retrouver le détective, ensuite on sait qu'on va retrouver l'homme à la licorne et y a une progression bien évidemment dans les deux, il y a aussi une sorte de jonction entre les deux univers, même si elle n'est pas facile à saisir, et j'avais été tellement marquée par ce roman que c'était resté en moi, et donc c'est pareil, 25 ans plus tard, j'ai eu envie de nourrir de ça, au moment où j'ai pensé à cette idée de qui est la victime, tout ça est remonté, et j'ai vu l'évidence de ce qu'on pourrait qualifier de procédé, de l'histoire réaliste dans laquelle s'intercalent des moments qui ne sont pas des moments réalistes et qui se déroulent sur une sorte d'île où en fait le temps s'est arrêté, où d'ailleurs le soleil est toujours à la même place, où l'héroïne est plongée dans un univers, dans une sorte de ville, état, île, on ne sait pas. Elle ne comprend pas le langage des habitants. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle ne sait pas non plus qui elle est d'ailleurs. Et voilà. Donc, mais je suis persuadée que effectivement, ça vient de la très forte impression que j'avais ressentie à la lecture de La fin des temps, qui est un magnifique roman que je vous conseille.
Donc, on peut être nourri effectivement quand on parle de sources et d'inspiration, à la fois d'aller chercher dans la presse, dans le réel, et puis aussi, j'imagine que tu es notamment une grande lectrice et notamment littérature d'Asie, donc, hein, puisque l'Asie est importante dans ton parcours. Oui. Dominique a également fondé une maison d'édition, si on peut le mentionner quand même, qui sont les éditions Akatombo, qui publient de la littérature
japonaise exclusivement, oui, c'est ça.
Et de l'imaginaire
Alors,
également.
À la fois, voilà, c'est ça, à la fois la littérature de genre, c'est-à-dire du polar à la fois contemporain et les grands classiques, de la SF, mais plutôt de la SF scientifique, et des essais. Puisqu'en fait, on a sorti un livre sur le photographe Araki, et c'est les réflexions d'Araki, des entretiens avec Araki, et un autre qui est Kore-eda, qui s'intitule « Quand je tourne mes films », où Kore-eda raconte d'où il vient et sa conception de son métier.
C'est de là d'ailleurs que vient, alors dans Une femme de rêve, il y a beaucoup de personnages et de sujets, de choses qui se relient à l'intrigue. Et il y a la fille du truand, la fille de Carmia, qui est Nico, qui est une jeune fille moderne, qui poste des vidéos sur YouTube. Elle est totalement connectée et qui a plus besoin de faire de transporter de mallettes d'argent avec elle, puisqu'elle est passée
aux
bitcoins. Et il y a donc ce personnage qui est d'ailleurs un Japonais. Lui aussi, tu es allé le chercher dans le réel.
À vrai dire, c'était quelqu'un qui m'a fait suggérer les bitcoins parce qu'il m'avait dit, si ton truand compte partir au Brésil avec des caisses de billets, ça va être un peu compliqué parce qu'en fait, Carmia s'évade et il veut récupérer la fortune qu'il a mis au frais pour partir au Brésil. C'est le projet initial qui va être un peu détourné par les circonstances. Et en fait, quelqu'un m'avait dit, mais non, ça serait beaucoup plus astucieux qu'en fait, il ait placé sa fortune en bitcoins. D'ailleurs, ça peut être un outil pour pas mal de mafias dans la vraie vie. Et du coup, je me suis documentée sur la question et j'ai découvert qu'en fait, le Bitcoin, ça avait été inventé par un certain Sakamoto, si je me trompe pas, parce que j'ai la mémoire courte, qui d'ailleurs n'existe peut-être pas. C'est-à-dire, c'est peut-être un pseudo pour une personne ou pour un groupe de personnes. À vrai dire, j'ai trouvé ça aussi très romanesque comme histoire, parce qu'il s'avère que les inventeurs ne sont pas connus. On suppose qu'ils sont japonais, mais ça n'est pas une certitude. Et je trouvais que ce mystère derrière cette invention technologique était tout à fait intéressant. Ça m'a conforté dans l'idée d'utiliser ce thème des bitcoins.
Oui, qui est c'est Satoshi Nakamoto. Donc là, c'est véritablement repris totalement son idée.
Ah bah oui, là je me suis renseignée effectivement sur les bitcoins et là je pouvais pas me permettre d'inventer quoi que ce soit. Et il se trouve que mon héroïne, ça lui semble, Nico a 18 ans à peu près, et ça lui semble totalement naturel. Et c'est elle qui a conseillé son père, qui lui, on imagine qu'il a une cinquantaine d'années, elle lui a conseillé donc de placer sa fortune en bitcoins pour pouvoir l'utiliser facilement le moment venu.
Je vois que l'heure tourne.
Ah, j'ai
pas encore utilisé. On va prendre quelques questions aussi dans la salle. On vous voit en nombre. En nombre chinoise avec la lumière. Donc, je ne sais pas si vous vouliez, si quelqu'un veut interroger Dominique sur un sujet en particulier qu'on n'aurait pas pensé à aborder. Si je peux. Oui.
Merci. Je voulais demander finalement qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot du roman.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas pitché en fait.
J'aime pas trop. Moi, c'est vrai que ça peut être un tort. J'aime pas trop en dire sur une histoire. Moi, je déteste rien tant que lire la quatrième de couverture. Mais un mot, te laisse faire.
Oui, peut-être en quelques mots. On a déjà évoqué des personnages. L'idée, c'est en fait un braqueur multirécidiviste qui a pris cher, qui est censé passer le reste de sa vie en prison, qui décide de s'évader en utilisant sa preuve d'analyse filmique et qui, au lieu de partir au Brésil comme prévu, parce que l'évasion est organisée par sa fille, qui a tout prévu, au lieu de partir au Brésil comme prévu avec les bitcoins et sa fille, il décide de s'attarder parce qu'il a peut-être un petit compte à régler par ici et une histoire qui traîne par là, parce qu'il est quand même un peu caractériel, pour des raisons qu'on découvre. Et donc le voilà lancé dans une espèce de road movie, en quelque sorte, en France, alors que vraiment, il ne devrait pas. Donc, il va y avoir un retour dans son passé, et ça va impacter un certain nombre de personnages. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Carmia, dans le temps, a flanqué une balle dans le crâne d'une femme flic, et que quand il s'évade de prison, le flic qui était le partenaire de cette femme ne va pas rester inattentif. Et d'ailleurs, il est plus flic, il travaille dans la sécurité d'un palace, et ça va le réactiver, parce qu'il est un peu comme un zombie, parce que cette femme, il l'aimait. Et le voilà qui va se mettre sur la piste de Carmia et de Nico, la fille de Carmia. Voilà. Je ne sais pas si... J'en dis pas trop, j'espère. Hein, mais...
Est-ce que quelqu'un d'autre voulait poser une question à Dominique ou pas? Sinon, j'en ai une. Hein.
Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir ce qui était à l'origine du roman Les Infidèles, sur la thématique de l'héroïne au départ, et notamment de son métier. Voilà, je voulais savoir s'il y avait un fait divers, une anecdote.
Effectivement, voilà. C'est une question tout à fait en rapport avec le thème du débat, parce qu'en fait, enfin de la conférence, je veux dire, je suis partie de la réalité, là encore. J'ai découvert qu'une femme avait créé sa petite entreprise de. Sa petite fabrique de mensonges. Elle avait créé un système qui permettait en toute discrétion d'acheter des alibis en ligne. Et visiblement, ça marchait très fort pour elle. Et donc, je suis partie d'un personnage de ce type, une femme qui décide, parce qu'elle a besoin d'argent rapidement, et donc on découvre après pourquoi, de créer cette boîte d'alibis en ligne. Voilà. Je suis partie là vraiment du réel.
Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a un de tes romans, alors le dernier est peut-être trop récent, mais qui a, lui, dans le sens inverse, produit quelque chose autour de toi. Est-ce qu'il y a eu des conséquences, quelquefois, ce que tu as écrit, qui ont fait un mouvement inverse?
Oh, tu veux dire que j'aurais eu un impact sur le réel?
Alors,
avec mes
de
avec
la
mes
le transformer, histoires. Je ne sais pas, mais un retour surprenant, avec 18 romans, je ne sais pas...
Alors, non, j'ai quelquefois eu des personnes, notamment quand j'ai créé le duo Ingrid et Lola, qui était un duo chaleureux, qui était en fait un duo féminin, et je voulais qu'en fait, il y ait aussi une étude de l'amitié, en fait, hein, et donc elle nourrissent une amitié, au début c'est chaotique, mais elles nourrissent une amitié assez profonde, et elles sont un duo d'enquêtrices amateurs, et en fait, j'avais écrit cette série parce que c'était suite au 11 septembre, et je trouvais que l'atmosphère était totalement à la déprime, et j'avais besoin, je pense qu'on avait tous besoin à ce moment-là, de héros... positif ou du moins qui allait malgré les ennuis, parce qu'elles vivent des aventures terribles, mais malgré les ennuis qui tiennent en un seul morceau et qui tiennent aussi de par la puissance de leur amitié. Et j'ai régulièrement eu des contacts avec des lecteurs et des lectrices qui disaient que mes héroïnes les avaient aidées, leur avaient donné une bouffée de bonne humeur, et quand elles avaient un gros coup de déprime, et ben en fait elles avaient passé un moment qui les avait, bien que ce soit du noir, hein, vraiment il y a des intrigues, il y a même une histoire qui tourne autour de l'armement, des rétrocommissions, enfin bon, ça rigole pas du tout, mais les deux héroïnes rigolent, elles se tiennent, elles se serrent les coudes et elles échangent en permanence, il y a des digressions sur la langue, elles s'amusent des différences entre la culture américaine et la culture française, elles se rentrent un peu dedans, et il y avait un côté jubilatoire, et c'était aussi un hommage à Chester Himes, à ces personnages de Ed Cercueil et Fossoyeur Jones, et j'avais bien aimé ce retour du public qui disait là, vous nous avez apporté de la bonne humeur, donc ça c'est toujours plaisant.
C'est des personnages récurrents qu'on aime à retrouver, et voilà. C'est clair qu'ils font partie dans le genre de ceux que,
voilà,
et de ceux que les lecteurs ont retenus.
Ouais. Ouais, quelquefois on me dit elles nous manquent, alors je leur dis ouais, vous savez, j'ai écrit leurs aventures pendant 10 ans, donc bon, au bout d'un moment il faut passer à autre chose, et voilà quoi. Mais oui, on sait que c'est assez amusant d'imaginer que les personnages s'inscrivent dans le cœur des lecteurs, un petit peu.
C'est un bon retour,
mais moi ça me fait ça aussi, hein. Il y a plein de personnages que j'ai dans le cœur qui m'accompagnent, en fait, bien sûr.
Est-ce que quelqu'un voulait poser une dernière question à Dominique ou pas? Sinon, on peut aussi vous laisser, on peut terminer sur ces mots et vous laisser la retrouver en signature et discuter un petit peu tranquillement et plus discrètement avec elle qu'exposer au regard de tous. On en reste là? Alors, je vous remercie. Merci beaucoup d'être resté avec nous.
Merci
Dominique.
Merci à toi.
Et donc, on vous laisse avec elle.